L'actualité des Alpes du Sud est le fort Kera vendu à 811 000 euros.
C'est Nicolas Chabran, le président de la fédération du BTP dans les Hautes-Alpes, qui a remporté les enchères hier sur cet édifice de Château-Villevieille. Il faut désormais attendre 10 jours pour que la vente soit définitive.
Il y aura bien un train pendulaire, mais à l'année dans les Hautes-Alpes.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur envisageait jusque-là un train pendulaire uniquement pour les périodes touristiques dès 2023. Mais des études sont lancées. Quant au collectif pour l'étoile ferroviaire de Vennes, il voit là un effet d'annonce. Selon lui, il serait bien plus simple d'améliorer le ferroviaire en supprimant les doublons car-train.
La facture d'énergie flambe et Camille Galtier avance une gestion en bon père de famille.
Le maire de Manosque ne veut pas toucher aux impôts, mais il faut faire face à une note qui a quasiment doublé en un an. Des mesures d'optimisation sont mises en place dans les structures municipales, éducatives et sportives avant des travaux pour moderniser les bâtiments communaux.
Sport, voile et deux hauts alpins au départ de la route du Rhum.
Romain Athanasio et Damien Seguin espèrent rejoindre Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en le moins de jours possible. Et puis en hockey sur glace, on connaît l'affiche des quarts de finale de la Coupe de France. Les Rapaces de Gap accueilleront les Gothiques d'Amiens à la fin du mois. Répétition générale ce soir puisque ce sont les Picards qui accueillent les Hauts-Alpins, mais cette fois pour le compte de la Ligue Magnus. Météo.
Alors, un temps bien ensoleillé en début de journée sur nos départements et puis le ciel sans nuages à nouveau par l'ouest. En cours de matinée, de nouvelles précipitations vont gagner les Hautes-Alpes avec de la neige à 1500 mètres, voire 1300 mètres d'altitude sur les dernières averses. Côté température, les maxi 8 à 12 sur les Hautes-Alpes, ça ira jusqu'à 14 sur les Alpes de Haute-Provence. Et attention sur les routes à cet épisode neigeux attendu donc dans les Hautes-Alpes.
C'est la préfecture qui appelle à la prudence. La limite pluie-neige, vous l'avez dit, va s'abaisser en cette matinée dans le nord du département, notamment pour atteindre les 1400 mètres d'altitude. Une nouvelle précipitation neigeuse devrait apporter 5 à 10 cm de poudreuse supplémentaire. Notez que les cols du Galibier, Daniel et du Parpaillon sont désormais fermés pour l'hiver.
Adjugé vendu pour 811 000 euros.
Le fort Kera à Château-Villevieille a été vendu aux enchères hier au président de la fédération du BTP des Hautes-Alpes, Nicolas Chabran. Une vente plus satisfaisante que celle de l'an dernier, selon le propriétaire François Marty. Pour rappel, l'édifice avait été adjugé pour 661 000 euros à une SCI d'Aix-en-Provence qui n'avait pu honorer ses paiements. Il faut désormais attendre 10 jours pour que la vente soit définitive. D'ici là, François Marty espère une surenchère.
Et les Hautes-Alpes ne verront pas le train pendulaire passer.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur se positionne alors que l'idée d'un train, mais uniquement touristique, était sur la table depuis plusieurs mois. Désormais, l'hémicycle marseillais étudie une ligne ferroviaire plus régulière dans le département. L'annonce a été faite hier matin sur Alpe 1 par Chantal Emeaud, deuxième vice-présidente de la région PACA et maire d'Embrun. Les précisions avec vous, Christophe Laurenceau.
Il y aura bien un train pendulaire dans les Hautes-Alpes, c'est ce qu'affirme la seconde vice-présidente Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jusque-là, l'hémicycle régional y réfléchissait avec l'idée d'un train touristique dès l'été 2023. Désormais, c'est bien d'un train à l'année dont on parle, mais pas avant les deux, voire trois prochaines années.
Je ne sais pas si partir à Devennes jusqu'à Briançon, ce serait évidemment l'idéal. On va certainement tester plusieurs tronçons. Des études sont en cours de réalisation. Il faut absolument que ça puisse aller vite. Je ne pense pas que le train sera mis en place pour l'été 2023. Je pense plutôt dans les années 2024 ou 2025. Malheureusement, on l'aura pas avant.
Une excellente nouvelle pour Jean-Marc Duprat, maire de Larraine-Montéglin. Il est depuis plusieurs années le fervent défenseur d'un train des travailleurs. Néanmoins, il se montre vigilant sur plusieurs points, notamment la question de la réouverture de plusieurs gares.
Sur le fond, c'est très bien, mais il va falloir voir sur la forme comment ça va être organisé. J'espère que le 6 tours en aiguèche ne soit pas laissé sur le quai de la gare. Et surtout, il va falloir voir comment va se faire le cadencement. Des gares ont été fermées et ne permettent plus le croisement des trains. Et peut-être réouvrir des gares juste des haltes, comme ça se fait en Suisse et en Allemagne. La personne qui attend sur le quai appuyée sur un bouton, le conducteur du tram-train est averti qui doit s'arrêter. Pareil, si des gens doivent descendre.
Une question de rouvrir des gares qui est aussi sur la table. On parle notamment de celle de la Roche des Arnauds, Fraissinous, la Bâtie-Neuve ou encore Savines-le-Lac.
Et cette annonce sur Alpe 1 n'a pas manqué de faire réagir le collectif ferroviaire de l'Étoile de Vennes. Il dénonce une annonce plus proche de l'intox que de l'info. Selon lui, le réseau ferroviaire pourrait être amélioré à coût constant, simplement en répartissant mieux les trajets en car et en train afin d'éviter les doublons. Exemple avec le train Marseille-Briançon qui part à 7h41 alors qu'un car Marseille-Gap part 4 minutes plus tard.
Dans le reste de l'actualité avec la facture qui flambe, Manosque décide de serrer les boulons.
En l'espace d'un an, la facture a gonflé, passant de 1 300 000 euros à 2 400 000 euros. Un gros coup dur pour les finances de la ville qu'il faut aujourd'hui savoir juguler en s'engageant vers plus de sobriété énergétique. À court terme, des résultats sont espérés dès l'an prochain grâce à des mesures d'optimisation dans les structures municipales, éducatives et sportives. Seules les crèches ne seront pas touchées. Le maire Camille Galthié se refuse à augmenter les impôts, mais plutôt à gérer en bon père de famille.
Un maire est forcément un comptable. Après, le comptable n'a pas de vision d'avenir de sa ville, n'a pas de vision d'aménagement, ce que je me permets, je pense que j'ai. Mais évidemment, aujourd'hui, un sou est un sou. Faire croire que l'argent est magique, comme certains le font dans certaines communes et dans certaines collectivités, n'a pas de sens parce qu'on est très vite rattrapé derrière par les banques, notamment, puisqu'aujourd'hui, les collectivités investissent, mais grâce à l'appui bancaire pour investir sur l'avenir. Et si demain, nous avons des notations de nos collectivités dramatique, nous ne pouvons plus investir sur l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il y a un jeu d'équilibre à avoir, tout le temps, en permanence. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement aussi, puisque c'est quand même quelque chose en termes d'intelligence collective à mettre en œuvre, et il faut le faire.
Et à plus long terme, des travaux d'ampleur sont notamment prévus dès 2023 pour moderniser les bâtiments communaux et notamment les écoles. 20 millions d'euros sur 10 ans sont mis sur la table, dont la moitié dès ce mandat. La rénovation n'est pas le seul avenir pour le parc bâtimentaire parce qu'il faudra drastiquement le réduire, selon le maire Camille Galthié, en sachant séparer ce qui est nécessaire de ce qui est utile.
Le territoire de Gap-Talar-Vallée se découvre autrement.
Depuis quelques jours, l'office de tourisme a décidé de vous embarquer dans des escapades sonores. C'est Héloïse Thomas, community manager et reporter de territoire, qui a eu cette idée originale pour mettre en valeur le territoire de façon différente. Le premier épisode nous emmène au domaine de Charence, au cœur de l'automne.
C'est vraiment découvrir le lieu sous un nouvel angle. C'est des épisodes un peu de méditation, entre guillemets, où le spectateur se pose pendant une minute face à cette vidéo, sans même forcément la regarder, mais juste l'écouter et prendre un temps de pause, calme. Et à la fin, en fait, ça va donner une playlist entière sur YouTube que les personnes vont pouvoir écouter. Par exemple, même avant de s'endormir, comme un podcast, en fait. J'ai l'objectif de faire un épisode par mois et de montrer les saisons aussi en même temps. Par exemple, là, c'était l'automne, donc on avait beaucoup l'aspect des feuilles qui craquent, etc. Mais quand l'hiver va arriver, ça va être centré sur la neige, ça va être sur beaucoup de lieux différents, certains lieux qui sont pas spécialement connus du territoire, donc c'est aussi pour faire découvrir des lieux secrets un peu.
Et vous pouvez retrouver cette vidéo et cette escapade sonore sur alpe1.com.
Alpe 1 Sport. Et la route du Rhum avec un nouvel appel au large pour Romain Attanasio.
Après sa première participation et sa 13e place en 2018, le haut alpin sera à nouveau au départ ce dimanche de ce sprint en solitaire qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe. Un rêve de gosse pour ce skipper de 45 ans qui a déjà à son compteur deux Vendée Globe, 4 Transat Jacques Vabre et une dizaine de solitaires du Figaro. Un beau tableau de chasse qui lui permet aujourd'hui d'avoir entre ses mains l'un des IMOCA les plus performants de sa génération. 5e du dernier Vendée Globe. Et donc le top 10, c'est l'objectif de Romain Attanasio qui a dû apprendre à dompter son nouveau foiler Fortinet Best Western.
Ça n'a rien à voir en fait. D'ailleurs, c'est plus un bateau, c'est un avion. C'est vraiment une autre manière de naviguer. C'est des monocoques qui font 18 mètres de long. Sauf que maintenant, ils sont équipés de grands foils qui soulèvent le bateau, surtout qu'ils font accélérer sans cesse. Donc l'année dernière, après l'arrivée du Vendée, quand j'ai eu ce Fortinet Best Western, ça a été un peu la découverte, et c'est vrai que c'était très impressionnant. J'étais souvent un peu dépassé par le bateau. Heureusement, c'était une année en double pour préparer la Transat Jacques Vabre, donc j'avais mon coéquipier Sébastien Marseille, avec qui on a vraiment pris ensemble la mesure de ce bateau. Puis depuis le début de l'année, là, c'est en solo, et puis ça y est, là, maintenant, je pense que je l'ai bien en main. Il ne me fait plus peur, au contraire. Plus ça va vite, mieux c'est. Il faut se tenir. Alors on a un casque en permanence à bord, hein, parce qu'on soigne partout. Les chocs sont hyper violents, quoi. Ça tape vraiment très fort. Mais par contre, le bateau est solide. Donc des fois, il monte, il décroche, il retombe. Faut juste se tenir, mais tant qu'il casse pas, tout va bien.
Et Romain Attanasio ne sera pas le seul représentant du territoire, puisque le Briançonnais Damien Seguin fera également partie des 138 navigateurs au départ et plus particulièrement des 38 au sein de la catégorie Rennes Imoca. Enfin, sachez que le Guies Trois-Quéra sera aussi présent au départ. L'Office de tourisme va faire la promotion du territoire avec des visuels, mais surtout des dégustations. L'arrivée des premiers concurrents sera jugée à Pointe-à-Pitre à partir du 11 novembre.
Un mot de hockey sur glace, les Rapaces de Gap qui espèrent transformer l'essai.
Et confirmer l'adage, jamais 203. Après un coup de mou, les Gapensés ont engendré deux victoires. L'une sur les Diables Rouges de Briançon en Magnus, l'autre en Coupe de France face à Annecy. Ils ne laisseront donc rien passer ce soir au Gothique d'Amiens lors d'un déplacement chez les Picards. Des adversaires 10 points derrière les Alpins qu'ils rencontreront à nouveau le 29 ou le 30 novembre, mais cette fois à domicile. L'affiche des quarts de finale de la Coupe de France a été tirée au sort hier et ce sera donc un duel entre Gap et Amiens. Du côté des Diables Rouges qui ne sont plus en lice pour la Coupe de France de hockey, on poursuit donc le chemin en Magnus avec une rencontre ce soir face à Chamonix. Briançon, Chamonix de formation actuellement en poule de maintien.
Et puis une carte postale de Balmoisson et Aiglun par le Trail des Catelières.
Pour sa deuxième édition, Mélanie Giraud et Dimitri Capel, qui sont à l'origine de cette épreuve, donnent rendez-vous ce dimanche aux 300 participants qui vont s'élancer sur les parcours de 11 et 16 kilomètres.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.